Merci beaucoup. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Et d'abord, félicitations à toute l'équipe organisatrice de ce beau colloque qui m'a quand même donné du fil à retordre, parce que je dois dire que le thème de cette session me paraissait au début. Je me suis dit, oula, il y a plein de choses qui me viennent à l'esprit. Donc, j'ai mis un petit temps à planir tout ça. Mais donc, je vais vous présenter ici l'état de mes réflexions. Alors, elles sont inspirées de plusieurs champs de recherche et de plusieurs expériences, et donc dans un souci d'honnêteté intellectuelle, je vais vous les livrer d'emblée. D'abord, ben évidemment, moi je vais appréhender la question des communs du point de vue de mes recherches sur les droits culturels, qui mettent en avant la question de la participation, donc ça tombe bien. Je vais aussi vous parler des communs du point de vue d'un projet de recherche qui n'est pas encore abouti, dans lequel on travaille sur les liens entre droits et expérimentation démocratique. Et on a déjà soulevé la difficulté pour le droit de se saisir, ça a été très bien expliqué par mon prédécesseur, mais de se saisir de ce mouvement, des expérimentations démocratiques, souvent, qui utilisent souvent le vocabulaire des communs. Et donc là, on aboutit à quelques conclusions intermédiaires. Je vais aussi vous parler du point de vue d'une série d'expériences concrètes, locales, parce que je pense qu'on gagne à parler des communs et des lieux culturels des communs en partant vraiment d'une approche pragmatique bottom-up, hein, comme les communs l'y invitent d'ailleurs, et en analysant de certaines expériences concrètes. Et donc c'est à partir de ces enjeux-là que je vais vous parler. Et dernière expérience, ça a été la rédaction du plan de relance pour la culture dans communauté. Chez nous, on n'a pas de problème avec le mot communauté, puisqu'on est un État fédéral. Pour la communauté française, donc qui est l'entité politique des francophones belges. Et donc, dans ce plan de relance, on a fait une large place à la question des liens entre autorités publiques et communs, parce qu'on a dû constater, je ne sais pas si c'est le même constat aussi clair en France, mais que ces lieux avaient été très très résilients et au choc provoqué par la crise sanitaire, et qu'ils étaient restés parmi les derniers lieux dans lesquels il y avait encore une vie commune quand il y avait même les confinements durs. Donc ça a aussi interrogé la manière dont on faisait des politiques culturelles. Alors, je vais intervenir en trois points. Je sais que ce n'est pas toujours l'habitude ici, mais le premier, c'est la question, ben, on peut multiplier les angles d'analyse, les cadres d'approche et donc d'évaluation et d'explication des communs. C'est une notion qui ne se laisse pas facilement définir. Et ce qui est bien, c'est qu'on m'a déjà facilité la tâche, donc j'irai relativement rapidement. Ensuite, je verrai avec vous la question de la vie culturelle, son rapport à la communauté dans le droit des droits culturels. Donc comment parle-t-on des communs à travers la notion de vie culturelle et de communauté en droit international des droits culturels et en partie dans le droit public belge, surtout français, je le connais un peu moins bien. Et enfin, la troisième question, je regarderai avec vous, mais tiens, comment on peut faire pour aborder la question du rôle de l'État et des lieux culturels, du positionnement des lieux culturels institutionnalisés par rapport à ces expérimentations démocratiques. Alors, sur les communs, dans le domaine de la culture et du patrimoine culturel, mais en fait, on pourrait multiplier les analyses. Hein, donc, c'est bien vu le thème de cette journée d'études. On pourrait en faire, en fait, 15, hein, un mois d'études. Bon, il y a évidemment en droit d'auteur, on en parlera tout à l'heure, mais aussi en droit social, finalement, les communs, c'est un appel aussi à revoir le fonctionnement des industries créatives, la manière dont elles fonctionnent en interne. C'est finalement un appel à démocratiser l'entreprise en elle-même. D'ailleurs, il y a eu un gros colloque sur Democratizing Work qui réutilisait le vocabulaire des communs. Donc, c'est aussi un appel à fondamentalement changer la structure des institutions. Mais ça implique aussi potentiellement une réflexion pour les opérateurs, les services publics, les associations actives subventionnées dans le domaine culturel. Petit exemple glané au hasard, la directive sur les marchés publics, c'est toujours chouette le droit, et sa transposition en droit belge prévoit des exceptions aux règles très strictes de libéralisation du marché en matière de marché public. Depuis peu, des exceptions pour, je cite la directive et la loi de transposition belge, j'ai pas regardé la loi de transposition française, pour des structures qui promeuvent la démocratie interne et l'expérimentation à partir des collectivités locales. Donc voilà, donc de nouveau ici, on a une traduction dans une branche du droit qu'on ne suspecterait pas de boboïsation aiguë, le droit des marchés publics, et qui fait appel à ces notions et qui ouvre une brèche assez large pour des exceptions à l'application des règles assez strictes, hein, en matière de marché public. En droit privé, mais là, évidemment, les communs réinterrogent la notion de propriété privée, Néanmoins, dans ces concrétisations concrètes, moi, je ne suis pas toujours sûre que c'est une interrogation vraiment fondamentale de la propriété privée. Il y a une thèse qui a été défendue par Marie-Sophie de Clipel à Saint-Louis sur les communs dans le patrimoine culturel, mais finalement, elle aboutissait à un constat quand même assez nuancé, pas une remise en question frontale, par exemple, de la propriété du propriétaire privé qui avait l'œuvre dans sa collection, dans sa maison, mais plutôt des droits, des nouveaux droits d'usage ou de participation pour d'autres personnes. Mais donc, ce n'est pas toujours une interrogation hyper frontale de la propriété privée. Ça peut être assez variable, mais ça peut surtout amener à une redéfinition de la propriété des droits réels. Et là, vous connaissez sans doute mais toutes les réflexions d'Alain Supiot sur aussi le fait que la propriété privée est en mutation aussi sous l'effet d'autres mouvements, pas que la propriété privée, notamment ce qu'il appelle un retour à des rapports de féodalité sur la propriété privée. Hein, quand on regarde, quand on est propriétaire de contenu Apple, en fait, on est propriétaire quasi au sens du droit féodal, c'est-à-dire qu'en fait, l'objet porte de différentes fonctions dont on est l'héritier, on n'a pas le choix de ces différentes fonctions. Donc, mutation de la propriété privée, mais dans un contexte où la propriété privée bouge, et surtout en matière culturelle, bouge beaucoup aussi, et ce n'est pas clairement les communs qui gagnent le combat, quoi. Du point de vue des sciences politiques, de la sociologie politique, il y a aussi toute une littérature qui questionne les approches fondées sur les communs, et ce discours porté sur les communs, est-ce que ça favorise vraiment une repolitisation des enjeux, ou plutôt une dépolitisation? Ça favorise plutôt une approche universaliste en remettant l'accent sur l'intérêt général ou plutôt quelque chose de très particulariste, voire localiste? Est-ce que c'est une remise en question de la propriété privée ou pas? Est-ce qu'il y a une volonté de désétatisation ou la formulation plutôt positive d'un nouveau rôle pour l'État? Est-ce que c'est finalement juste une reformulation de la vieille idée de participation, de l'idée de démocratisation de la culture ou de démocratisation culturelle? Ou est-ce que c'est vraiment un nouveau paradigme? Donc là, il y a toute une série de questionnements. Et en théorie générale de l'État, en théorie de la démocratie, ben là aussi, on peut se poser plein de questions. Par exemple, Pierre Rosanvallon, bien sûr, il ne va pas parler des communs en matière culturelle, mais si on le lit un peu sous cet angle-là, finalement, c'est un peu de ça qu'il parle aussi quand il appelle à complexifier la démocratie, à démultiplier l'exercice de la démocratie et de la souveraineté. Il cite Seyès qui disait « La démocratie, c'est pas simplement de belles institutions, c'est aussi, je le cite, multiplier les places, les réverbères, les trottoirs. » Donc multiplier les lieux du commun, les lieux où la population va se rencontrer. Et donc, Pierre Rosanvallon, dans un de ses livres, « Le peuple introuvable », il appelle à une réflexion sur, mais voilà, complexifier ces lieux où le commun fait sens. Donc la question, à partir de tout ce vaste ensemble de littérature, c'est, mais tiens, mais comment les lieux culturels peuvent participer de ce mouvement d'enrichissement et de complexification de la démocratie? Est-ce qu'ils peuvent participer à la reconstruction d'un commun qui fait sens? Et comment? Et après, que nous dit les droits des droits humains sur les lieux du commun? Alors, je passe maintenant à mon deuxième point, donc la vie culturelle et le rapport à la communauté dans le droit international des droits culturels. Alors, l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, lui, il va frontalement puisqu'il parle du droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté. Et donc là, d'emblée, en 1948, il y a cette idée que la vie culturelle à laquelle on a accès et à laquelle on participe, c'est la vie culturelle de la communauté. Alors bien sûr, il y aura des interprétations de ce mot qui, a priori, pouvait susciter des craintes de la part des États membres. Et quand on fouille les travaux préparatoires de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'était un exercice que j'ai fait pour ma thèse, hein, je ne le conseille pas forcément à tout le monde, mais on va trouver qu'il y a eu beaucoup de controverses sur ce terme de la communauté. Et qu'en tout cas, ce qu'il y a de clair, c'est que la volonté était que la communauté ne se réduise pas à la communauté nationale, mais englobe quelque chose de plus large. Alors, on n'a pas trop parlé des communautés infra-étatiques, mais ce n'était pas exclu d'emblée. Alors, l'article 15 du pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels, c'est la disposition qui parle plus clairement des droits culturels. Donc, il reconnaît le droit de chacun de participer à la vie culturelle et les mesures que les États parties au présent pacte devront prendre en vue d'assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre celles qui sont nécessaires pour assurer le maintien, le développement, la diffusion de la science et de la culture. Donc là, on ne va plus parler de la communauté. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que dans les travaux préparatoires du PIDESC, il y a eu un rejet de l'idée de limiter de nouveau l'accès et la participation à la vie culturelle nationale. Il y a eu la volonté très claire d'inscrire ce droit dans un accès à la vie culturelle étrangère, avec également des références aux vies culturelles infra-étatiques. Ce qui est intéressant quand même, c'est de constater que l'UNESCO a bataillé pour obtenir l'inclusion d'une référence aux communautés culturelles, mais que cette référence a été écartée assez clairement. Alors, dans l'article 15, au début, c'est vraiment l'idée de l'accès, hein, c'est la politique de démocratisation à la Malraux. Donc, l'idée qu'il faut favoriser l'accès à la haute culture, aux œuvres capitales de l'humanité. Et puis, au fur et à mesure des années s'écoulant, le comité des DESC, hein, le comité qui est chargé de l'interprétation de ce pacte, va ouvrir très largement l'interprétation de ce droit à la participation et à l'accès à la diversité des vies culturelles, et puis à la participation active, donc l'idée de démocratie culturelle, et enfin, dernièrement, à la protection des identités culturelles. Dernière ouverture dans l'interprétation de ce droit, plus controversée, à titre personnel, j'ai quelques réserves, mais j'y reviendrai éventuellement si vous le souhaitez. Article 27 du Pacte international sur les droits civils et politiques, là, la communauté est plus clairement identifiée. C'est dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, le droit des personnes qui appartiennent à ces minorités d'avoir en commun avec les autres membres de leur groupe leur propre vie culturelle. Donc là, le « en commun » renvoie à l'idée d'une vie de la communauté ethnique, religieuse ou linguistique et le droit des membres de cette communauté d'accéder, de participer à cette vie culturelle qui doit donc être préservée. C'est le droit à sa culture qui est reconnu donc dès 1966 dans ce pacte. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'interprétation de l'article 27 et de l'article 15 convergent vers l'idée d'une protection des identités culturelles, donc une protection de la vie culturelle des communautés. Alors, mais le problème, c'est que autant dans l'article 27, les minorités sont relativement identifiées, autant dans l'article 15, l'identification des communautés, c'est beaucoup plus vaste. Autre élément important, c'est que tous ces textes consacrent également une obligation de respecter le principe de non-discrimination en matière culturelle. Ça veut donc dire que l'État est tenu de ne pas discriminer entre les différents usagers de ces services culturels, en fonction notamment de leur appartenance à des communautés culturelles différentes. Et il est tenu aussi, ça c'est plus compliqué, de ne pas discriminer dans l'objet, hein, dans son obligation de maintien, de conservation, de développement de la culture. Donc ça veut dire qu'il doit favoriser l'égalité de la représentation des différentes vies culturelles. Ce qui n'est pas du tout évident, hein, parce que je ne pense pas que le ministère de la Culture français, et je parle aussi pour le ministère de la Culture française, enfin la communauté française de Belgique, soit toujours au clair sur la portée de cette obligation, qui peut aller très loin. Donc par exemple, si vous faites le musée d'histoire nationale ou un musée de l'immigration, vous êtes obligé de vraiment intégrer cette idée d'une obligation de non-discrimination entre les différentes expressions qui sont représentées. Dans les scènes vivantes, hein, dans tout ce qui est le secteur des arts vivants, c'est aussi compliqué de s'assurer que les scènes représentent la diversité, ne discriminent pas. On sait, les statistiques montrent assez clairement qu'on n'a pas encore atteint cet objectif, et que donc là, les actions positives que l'État est censé mettre en œuvre sont encore loin de produire leurs effets. Donc on voit que le droit international des droits humains postule l'existence d'une vie culturelle diversifiée, ce qui implique nécessairement de ne pas laisser, ou en tout cas de laisser en partie la vie culturelle aux mains du marché, mais effectivement au nom de l'intérêt général et de la protection de ses droits, de s'assurer de réguler ce marché pour qu'existe l'objet du droit d'accéder et de participer. Donc ça dépend en fait concrètement de politiques, de services qui mettent en œuvre cette vie culturelle diversifiée, mais qui ont pu effectivement ces dernières années décevoir, notamment en raison de cures d'austérité qui ont été observées un peu partout. Bon, donc dans cette mesure, on peut dire que la vie culturelle est pensée comme un commun dans le droit international des droits humains, à deux niveaux, commun d'une communauté et commun de tous, qui nécessite l'implication de services publics et de l'action publique. Mais c'est aussi perçu, et c'est très clair dans les travaux des organes internationaux, comme un lieu des communs, c'est-à-dire comme le lieu de la réalisation d'autres droits, le droit à l'éducation, à la liberté d'expression, à la vie privée et familiale, mais aussi, dernièrement, à l'environnement sain, parce qu'en protégeant certaines pratiques culturelles, on protège la biodiversité des semences, par exemple, hein, ça c'était le dernier thème, parce que certaines communautés ont des savoirs traditionnels liés à certaines semences qui permettraient de lutter efficacement contre les dérèglements climatiques. Mais le problème, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il y a une certaine ambiguïté sur la notion de communauté. Quelle est cette communauté à laquelle à laquelle on reconnaît des droits, à laquelle certaines personnes qui appartiennent ont des droits spécifiques d'accès et de participation? Ça reste évidemment toujours flou. Évidemment, la question est centrale, en particulier pour le patrimoine culturel colonial. Alors, en Belgique, ça fait l'objet de beaucoup d'actualités ces derniers temps. Donc, je vous avais dit que je verrais aussi des exemples très pragmatiques. Mais comment s'exprime cette idée des communs dans le patrimoine culturel colonial? Mais dans la littérature belge et dans le débat dans les institutions culturelles en Belgique, la notion de patrimoine culturel commun de l'humanité est très, très fortement remise en cause, si bien qu'elle est quasiment plus possible d'utiliser dans le débat public, parce qu'évidemment, on va critiquer le fait que, comme par hasard, le patrimoine culturel de l'humanité se retrouve, en ce qui concerne le Congo belge, au musée de l'Afrique en Belgique, donc c'est quand même un peu délicat. Dès lors, on n'utilise plus cette notion, et les autorités publiques belges, et c'est ça qui est intéressant, c'est parti du musée de l'Afrique lui-même, des scientifiques qui ont monté un projet avec les communautés qui ont essayé d'identifier comment faire avec ce patrimoine. Et donc ça aboutit à un avant-projet de loi qui va être voté sans doute incessamment sur la restitution des biens culturels du patrimoine colonial belge, et qui essaye de faire droit à cette idée d'un patrimoine qui appartient en particulier à certaines communautés, tout en appartenant aussi au patrimoine culturel de l'humanité. Donc voilà, un peu dans un entre-deux. Alors, mais une critique qui est d'ores et déjà faite à cet avant-projet de loi, c'est comment ça se fait que dans l'établissement de cet avant-projet de loi, ceux qui ont été consultés, ceux qui ont participé à la rédaction, ce sont les représentants du peuple belge. On n'a pas consulté les communautés de la diaspora congolaise, ou très peu, et pas non plus les parties prenantes au Congo. Donc voilà, donc vous voyez ici de nouveau, très pragmatiquement, les communs semblent se manifester sous l'idée de... en fait, il faut inclure dès le début de la décision des communautés en ce qui concerne des communautés pas concernées par la représentation nationale ou qu'en partie, puisque évidemment la diaspora congolaise a droit de vote en Belgique, mais c'est une petite partie de la représentation. Donc voilà, ici un exemple qui montre bien que l'une des voies pour sortir de cette tension, c'est la participation active, la participation à la prise de décision politique au-delà du modèle de la représentation tel qu'on le connaît. Et alors, dernier point, je vous rassure tout de suite, c'est une des voies aussi peut-être pour sortir de la tension. Là, c'est plus expérimental, mon propos sur les expérimentations en elles-mêmes, c'est peut-être l'expérimentation démocratique. Alors, les expérimentations démocratiques, je pense que, comme en France, elles ont tendance à se multiplier. Alors, en matière culturelle, je pense pouvoir m'avancer pour essayer de dresser quelques caractéristiques de ces expérimentations. Mais d'abord, elles se caractérisent, là je vous ai mis quelques photos des lieux d'expérimentation culturelle juste à côté de chez moi, donc dans un périmètre de moins d'un kilomètre, donc c'est assez frappant. D'abord, elles se caractérisent par une hybridation des fonctions. Là où les institutions culturelles sont spécialisées, ont une tendance à la spécialisation, et il y a une certaine forme de compartimentalisation institutionnalisée, parce que par exemple en Belgique, on a mis le ministère de la Culture hors du ministère et il s'est construit dans une séparation avec le ministère de l'Éducation, par exemple. Je pense que c'est aussi valable pour la France, dans la construction historique de l'action publique culturelle. Eh bien, ces expérimentations démocratiques, elles vont vraiment à rebours de cette idée. Elles disent non, hybridation des fonctions. Donc, ces lieux ont à la fois des fonctions culturelles, mais aussi d'accueil de la petite enfance, d'agriculture urbaine, de restauration, de circuits courts, d'accueil des réfugiés ukrainiens, de solutions innovantes en matière de logement. Bref, c'est une hybridation des fonctions. Deuxièmement, il y a une grande attention qui est portée à la gouvernance démocratique, l'inclusion, la participation de toutes les parties prenantes, en ce compris les réfugiés ukrainiens qui viennent d'arriver. Troisièmement, ce sont des expérimentations qui sont peu ou pas ou souvent en fait plutôt peu institutionnalisées. En fait, en Belgique, en préparant cette intervention, il n'y en a presque aucune qui n'est pas institutionnalisée. Ça, c'est intéressant. Elles ont presque toutes des liens, souvent avec les autorités locales, mais elles sont toutes soutenues par les autorités locales, le service de la culture ou d'autres services. Donc, en fait, elles sont quand même dans des liens institutionnalisés. Elles ont des contrats, des conventions avec les autorités locales. La question, c'est, en fait, moi, j'ai l'impression qu'une question centrale, c'est qu'est-ce qu'on fait des anciennes institutions culturelles face à l'émergence d'un nouveau secteur? Est-ce que chaque génération a droit à ces institutions culturelles? Hein, c'est une vraie question. En Belgique, on constate un empilement. On a eu les musées, les bibliothèques publiques, et puis démocratie culturelle, mai 68, tout ça. Les centres culturels, les centres communautaires, les centres d'expression et de créativité. Et puis maintenant, nouvelle génération, les tiers-lieux, ces lieux-là. Mais est-ce que chaque génération a droit à ces institutions? Et comment on fait avec les anciennes, en fait? C'est ça la question, hein. Enfin, je veux dire, c'est un peu la question qui fâche, mais c'est un peu ça, quoi. Donc, comment faire? Bon, et quel rôle pour l'État? Ça, c'est vraiment pas facile, et j'en conclurai par là. Il y a plusieurs tensions, en fait, hein, dans la question du rôle de l'État. La première tension, c'est entre cette idée de cette représentation de la loi générale et abstraite, héritée du jacobinisme français, mais des conceptions de la représentation nationale, de la souveraineté, hein, dont on a difficile de se défaire, parce qu'elles sont au fond, dans l'ADN de nos États. Loi générale et abstraite, qui donc repose sur une idée d'homogénéisation. Et puis des régimes dérogatoires et particuliers, réclamés par ces tiers-lieux, par les communs, par ces expérimentations. Donc évidemment, il y a déjà une première tension. Deuxième tension, cette idée que quand l'État s'en mêle, il a l'idée qu'il faut généraliser. Ok, donc ça c'est une expérimentation qui marche, je généralise. Hein, c'est ça l'idée du test, je vais généraliser. Voilà, hein, on va se reposer là-dessus. Alors que les expérimentations... Et les communs disent plutôt, mais non, l'idée, c'est pas toujours de généraliser. L'idée, c'est la sociodiversité des solutions, l'innovation sociale, qui n'est pas forcément toujours de nature à être généralisée, parce qu'il y a des raisons pour lesquelles elle peut marcher à un endroit et pas du tout marcher à un autre. Donc, laisser à l'expérience sa propre vertu. Mais alors ça, évidemment, l'autorité publique, elle sait plus quoi faire. Hein. Il y a aussi, derrière ça, une rupture de l'égalité. L'égalité républicaine chez vous, mais chez nous, on a aussi le principe d'égalité et de non-discrimination. Même si dans un État fédéral, c'est moins clair. La tentation aussi, dans toutes ces expériences dont on a déjà parlé, de marginaliser l'État, de le contourner. Quand vous discutez avec les personnes qui fondent ces mouvements, au début, hein, parce que ça change, le discours change après, hein, il y a quand même cette idée qu'on va s'autogérer, qu'on va se passer de l'État. Et puis un autre discours qui est différent, qui est de se dire, non, on va se réapproprier l'État pour échapper via l'expérimentation au triple mouvement qui met en échec l'action de l'État sur les communs, des communs qui... Dans une logique extractive, ça ne fonctionne pas parce qu'ils s'épuisent et ils ne peuvent pas être régénérés. Et le triple mouvement qui met en échec l'action de l'État, c'est, on en a déjà parlé, privatisation, globalisation, décentralisation, qui rendent l'État incapable d'assumer ses tâches. Mais donc du coup, c'est plutôt sans doute cette voie qu'il faut suivre. Alors en guise de conclusion, comment faire quand on suit cette voie, hein? Comment faire, quel pourrait être le rôle de l'État dont l'accompagnement de ces communs entendus au sens d'expérimentation démocratique de lieux de culture. Mais il faudrait sans doute passer, et je m'inscris complètement dans ce qui vient d'être dit, dans une nouvelle approche administrative, en fait, c'est assez clair. Hein. Pour schématiser, on est déjà passé par deux grandes cultures administratives. La culture jacobine, top-down, surplombante, avec l'idée de souveraineté, d'unicité, claque, on impose quelque chose, claque, ça se retrouve là. Deuxième culture administrative qui a été fortement imprégnée en Belgique, peut-être un peu moins en France, c'est le New Public Management. On va gérer l'État comme une entreprise privée avec des objectifs de rentabilité, d'efficacité. Ça a épuisé les services publics et ça les a plutôt amenés à un constat d'inefficacité. Et là, les communs proposent de passer à une troisième culture administrative qui est, et là je cite un livre vraiment fascinant, là ici je reprends vraiment ce que mes collègues disent là-dessus, c'est Olivier de Scutter et Tom de Wardere, deux collègues de l'UC Louvain, qui ont écrit un livre qui vient de paraître, The Enabling State, donc l'État facilitateur. Et là ce qu'ils nous disent, c'est qu'il faut basculer dans une autre culture administrative, de l'État facilitateur, c'est-à-dire l'État qui ne fait pas pour ses citoyens, ni même avec ses citoyens, avec la consultation des parties prenantes, ça c'était le New Public Management, mais l'État qui fait par ses citoyens, en rendant ses citoyens acteurs, en les identifiant, en leur faisant confiance, comme on vient de dire, en leur faisant confiance pour trouver les solutions innovantes, pour répondre à la complexité et à l'incertitude. Donc c'est un changement de paradigme, puisque c'est l'idée de faire par les citoyens, de les transformer en acteurs. Alors, je terminerai par quelques exemples. Je ne sais pas si j'ai encore un petit peu de temps. Un petit peu de temps, je dois continuer à tracer. Non, j'ai un petit peu de temps. Okay. Quelques exemples de cet État facilitateur. Quelques exemples où on voit émerger cette logique d'un État facilitateur qui fait confiance dans le citoyen et dans les collectifs, et qui adapte sa manière de faire son administration. Mais dans la Constitution française, vous avez inscrit le principe de l'expérimentation démocratique, et il y a une loi qui l'encadre à l'échelle locale. Je ne suis pas une spécialiste de cette matière, je pense qu'elle fait l'objet d'analyses plus ou moins critiques, mais c'est quand même un modèle intéressant de se dire, voilà, on introduit une brèche dans le modèle administratif classique, et on essaye de regarder comment on peut fonctionner sur la base d'un modèle enabling state d'expérimentation démocratique. Alors, il reste à voir comment elle se manifeste. Par exemple, une des dérives potentielles, c'est lorsque l'État fixe le cadre de l'expérimentation, les objectifs, identifie lui-même qui participe. Bon, ben là, alors évidemment, on n'est plus dans l'expérimentation très démocratique, dans l'idée de quelque chose de bottom-up. Donc là, il y a cet exemple. Un autre exemple, je vous en ai déjà parlé, c'est l'évolution du droit des marchés publics vers le fait de régime dérogatoire lorsqu'on est face à des entreprises ou à des opérateurs qui mettent en avant l'exigence de démocratie interne. Donc là, voilà, autre exemple. Autre exemple que je citerai ici, la réforme des centres culturels en Communauté française de Belgique et de manière générale en Belgique. Donc cette idée que les centres culturels doivent encore plus s'ouvrir à la participation. Et en fait, le projet culturel est co-défini avec les usagers, qui sont les associations du territoire, mais aussi les simples usagers des centres culturels. Donc là, on pousse à fond la logique de participation. Et donc, il y a un conseil culturel où ces personnes et ces associations viennent définir la politique culturelle des centres culturels, ou participent en tout cas à la co-définition de cette politique. Un autre exemple, c'est la reconnaissance des actions d'intérêt collectif. Donc, des collectifs peuvent agir en justice au nom de la protection des communs et non pas simplement l'intérêt individuel. Donc, l'intérêt commun n'est plus pris en tenaille entre l'intérêt individuel ou l'intérêt général en justice. Maintenant, il y a une troisième voie pour la défense des intérêts collectifs, des intérêts communs. Et puis, ça, c'est propre à la situation belge, mais évidemment, le fédéralisme, évidemment, un modèle propre à l'expérimentation démocratique, on expérimente tous les jours, hein. On invente dans les marges, on crée des nouveaux modèles. Mais donc, dans le cadre du fédéralisme, évidemment, on va sans cesse inventer des nouvelles formes, souvent parfois carrément dérogatoires, hein, au droit en vigueur, pour tester des nouvelles choses. On procède par essai-erreur. Et donc, on va essayer de fonctionner pour essayer aussi d'identifier des choses qui sont plus proches du citoyen. L'idée de subsidiarité verticale est très forte. Dans un tel contexte, évidemment, il y a plus de facilité à reconnaître l'existence de communautés, hein, autre que la communauté nationale, puisqu'on a déjà la reconnaissance institutionnelle de communautés infra-étatiques, voire de nations infra-étatiques. Franchir le pas de reconnaissance d'autres communautés infra-étatiques n'est pas beaucoup plus compliqué. Et enfin, dernier élément, c'est que finalement, cette idée de « governing through the people »,« enabling state », finalement, elle est déjà contenue en germe dans la politique culturelle belge, communauté française, communauté flamande et communauté germanophone aussi, mais enfin, c'est une commune, hein, communauté germanophone, puisque depuis le début, on s'est écarté du modèle français pour se rapprocher d'un modèle de gouvernance à l'anglaise, mais sans tout à fait le prendre en compte. C'est-à-dire que c'est un modèle dans lequel ce n'est jamais le ministre de la Culture lui-même qui prend la décision. C'est toujours des instances consultatives, participatives, donc c'est at arm's length, c'est-à-dire à distance de bras, que se prennent les décisions concrètes. Il y a des décrets de subventionnement, mais après, la définition des priorités, c'est la participation des parties prenantes, voire des consommateurs, et des publics, même si cette représentation est plus difficile à établir. J'en terminerai par là. Ce modèle belge, il a montré aussi ses limites. Les limites que le modèle français, lui, par contre, arrive à rencontrer. C'est le problème de l'égalité. C'est-à-dire que quand vous laissez comme ça, vous favorisez l'initiative tout le temps, vous laissez les acteurs culturels plus ou moins s'autogérer, sur fond de deniers publics avec quelques règles quand même, mais évidemment, à un moment donné, il y a un problème quand même qui se pose en termes d'égalité. Et on a quand même des statistiques assez révélatrices sur les déserts culturels, sur les publics scolaires qui n'ont jamais accès à des activités culturelles, et là qui montrent en fait un déficit de généralité des expérimentations et de ce qui se passe sur le terrain. Donc voilà, donc tout l'enjeu et ma brève expérience auprès de la ministre de la Culture, ça a été de concilier à la fois l'autonomie, favoriser l'autonomie des acteurs, l'intelligence collective, l'innovation sociale à l'échelle locale, les expérimentations démocratiques, mais sans sacrifier la question de l'égalité, parce qu'il y a quand même un point sur lequel je voudrais attirer l'attention, c'est que ce que la littérature un peu plus critique des communs met en avant, c'est que c'est pas n'importe qui participe à ces initiatives, Hein. Les publics moins favorisés n'y participent pas ou presque pas. Donc là, c'est quand même un gros enjeu en termes d'égalité, parce qu'il ne faudrait pas que favoriser ce type d'initiative, ce soit encore de nouveau favoriser un public qui, de manière générale, a déjà pas mal de leviers entre ses mains. Voilà, j'avais encore beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter ici. Je serais ravie d'en discuter avec vous après, voilà, après ma contribution. Voilà, merci beaucoup.